Chapitre 3. Rentrée. Même sans tenir compte de cet accident embarrassant, le retour sur Terre n'avait pas été facile. Le premier choc s'était produit peu de temps après la réanimation, quand le docteur Rudenko l'avait éveillé de son long sommeil. Walter Kernow se tenait, hésitant, à côté d'elle, et même dans son état de semi-conscience, Floyd comprit que quelque chose n'allait pas. Leur plaisir de le revoir était un peu trop exagéré et dissimulait mal une certaine tension. Et ils attendirent qu'il soit complètement remis pour lui annoncer que le docteur Chandra n'était plus parmi eux. Quelque part au-delà de Mars, si imperceptiblement que les appareils de surveillance ne pouvaient préciser le moment, il avait tout simplement cessé de vivre. Son corps, lancé à la dérive dans l'espace, avait continué de suivre l'orbite de Léonov jusqu'à ce qu'il fût consumé par les feux du soleil. La cause de la mort était absolument inconnue et Max Brailovsky exprimait une opinion bien peu scientifique, mais que le médecin commandant Katerina Rudenko elle-même ne tentait pas de réfuter. Il ne pouvait pas vivre sans Hal. Walter Kernow fut le seul à ajouter son avis.
Je me demande comment Hal prendra cela.
Peut-être par là-bas est-on à l'écoute de toutes nos émissions.
Tôt ou tard, il l'apprendra.
Et maintenant, Kernow avait disparu aussi. Ils avaient tous disparu, sauf la petite Xenia. Il ne l'avait pas vue depuis 20 ans, mais sa carte arrivait ponctuellement, tous les ans, à Noël. La dernière était encore épinglée au-dessus du bureau de Floyd. Elle représentait une troïka chargée de cadeaux lancée au galop dans les neiges d'un hiver russe, surveillée par une bande de loups à l'air terriblement affamé. 45 ans. Il lui semblait parfois que c'était hier que Léonov était retourné sur l'orbite de la Terre sous les applaudissements de toute l'humanité. Des applaudissements curieusement discrets, cependant, respectueux mais manquant de véritable enthousiasme. La mission vers Jupiter était une trop grande réussite. Elle ouvrait une boîte de Pandore dont on ignorait encore le contenu. Quand le monolithe noir appelé Tycho ou AMT-1, anomalie magnétique numéro 1, avait été sondé sur la Lune, seule une poignée d'hommes était au courant de son existence. Ce n'est qu'après le malheureux voyage de Discovery vers Jupiter que le monde avait appris que 40 millions d'années plus tôt, une autre intelligence était passée par le système solaire et y avait laissé sa carte de visite. La nouvelle fut une révélation, mais pas une surprise. On s'attendait depuis des décennies à quelque chose de ce genre. Et puis cela paraissait tellement vieux, bien antérieur à l'apparition de l'homme. Quant au mystérieux accident dont Discovery avait été victime autour de Jupiter, rien ne prouvait que ce fût autre chose qu'un mauvais fonctionnement à bord. Les conséquences philosophiques de la découverte de Tycho, AMT, n'étaient pas négligeables, mais en principe, l'humanité était toujours seule dans l'univers. Maintenant, ce n'était plus vrai. À quelques minutes-lumière à peine, ce qui n'était qu'un jet de pierre dans le cosmos, il y avait une intelligence capable de créer une étoile et, dans un insondable dessein, de détruire une planète 1000 fois grande comme la Terre. Pis encore, cette intelligence avait révélé sa connaissance de l'existence de l'humanité par le dernier message diffusé par Discovery depuis les lunes de Jupiter, avant que la naissance flamboyante de Lucifer ne détruise cette planète. Tous ces mondes sont à vous, sauf Europe. N'essayez pas de vous y poser. La nouvelle étoile étincelante avait banni la nuit, sauf pendant les quelques mois par an qu'elle passait derrière le soleil, apportant à l'humanité à la fois l'espoir et la peur. La peur parce que l'inconnu, surtout quand il paraît lié à l'omnipotence, ne peut manquer de provoquer une émotion aussi primitive. L'espoir, à cause des transformations que cet événement apportait à la politique internationale. On avait souvent dit que la seule chose susceptible de réaliser l'union de l'humanité serait un danger venu de l'espace. Nul ne savait si Lucifer était un danger, mais c'était indiscutablement un défi, et cela suffisait. Les événements le prouvèrent. Heywood Floyd avait suivi les métamorphoses géopolitiques depuis son poste d'observation de Pasteur, presque comme s'il était lui-même un extraterrestre. Au commencement, il n'avait aucune intention de rester dans l'espace une fois sa guérison achevée. Cependant, à l'irritation et à la confusion de ses médecins, sa convalescence avait traîné pendant un temps déraisonnable. Quand il considérait le passé, maintenant qu'il avait retrouvé la tranquillité, Floyd savait exactement pourquoi ses os avaient refusé de se raccommoder. Il ne souhaitait tout simplement pas retourner sur Terre. Il n'y avait rien pour lui sur l'étincelant globe bleu et blanc qui emplissait son ciel. Par moments, il comprenait que Chandra n'avait peut-être pas eu la volonté de vivre. C'était tout à fait par hasard qu'il n'avait pas partagé avec sa première femme ce vol en Europe. Maintenant, Marion était morte, son souvenir semblait faire partie d'une autre vie, appartenant à un autre, et leurs deux filles étaient d'amicales étrangères, avec des familles bien à elles. Mais c'était ses propres agissements qui lui avaient fait perdre Caroline, bien qu'il n'ait guère eu de choix dans l'affaire. Elle n'avait jamais compris, et l'avait-il compris lui-même, pourquoi il avait quitté la magnifique maison qu'ils avaient construite ensemble pour aller s'exiler pendant des années dans ces solitudes gelées loin du soleil. Il avait su, avant même que la mission fût à moitié terminée, que Caroline n'attendrait pas, mais il avait espéré que Chris lui pardonnerait. Et cette consolation lui avait été refusée. Son fils était resté trop longtemps sans père. Lorsque Floyd était revenu, Chris en avait trouvé un autre en la personne de l'homme qui le remplaçait dans la vie de Caroline. La séparation était consommée. Floyd avait cru qu'il ne s'en remettrait jamais, mais naturellement, il s'en était remis. Plus ou moins. Son corps avait astucieusement conspiré avec ses désirs inconscients. Quand il revint sur Terre après sa convalescence prolongée sur Pasteur, il présenta rapidement des symptômes si alarmants, dont quelque chose qui ressemblait de façon inquiétante à une nécrose osseuse, qu'il fut immédiatement renvoyé sur orbite. Et il y resta, en dehors de quelques excursions sur la Lune, parfaitement adapté à la vie de l'hôpital spatial sous un régime de 0 à 1 sixième de gravité. Il n'était pas un ermite, loin de là. Avant même la fin de sa convalescence, il dictait des rapports, il apportait son témoignage à d'innombrables commissions, donnait des interviews à des représentants des médias. Il était célèbre et cela ne lui déplaisait pas du tout, tant que cela durait. Cela compensait ses blessures morales. La première décennie, 2020 à 2030, passa si vite apparemment qu'il avait du mal à présent à se la rappeler en détail. Il y avait eu les crises, les catastrophes, les crimes, les scandales habituels, notamment le grand tremblement de terre californien, qu'il avait suivi avec une fascination horrifiée sur les écrans d'observation de la station orbitale. Pris au téléobjectif, quand les conditions étaient favorables, il avait distingué individuellement les êtres humains. Mais en les regardant de haut, comme l'œil de Dieu, il lui fut impossible de s'identifier avec ces petits points affolés fuyant les villes en flammes. Seules les caméras au sol avaient révélé toute l'étendue de l'horreur. Durant cette décennie, même si les résultats ne devaient être apparents que plus tard, les plaques tectoniques de la politique se déplaçaient aussi inexorablement que celles de la géologie, mais dans un sens opposé, comme si le temps s'écoulait à rebours. Car, au commencement, la Terre ne portait que le seul supercontinent de Pangée qui, au cours des âges, s'était fendu et séparé. De même, l'espèce humaine en innombrables tribus et nations. Maintenant, tout se raccordait, tandis que les anciennes divisions linguistiques et culturelles commençaient à s'estomper. Lucifer avait accéléré le processus, sans doute. Mais cela avait commencé bien plus tôt, quand l'avènement du jet avait déclenché l'explosion du tourisme international. Presque au même moment, ce n'était pas une coïncidence, naturellement, les satellites et les fibres optiques révolutionnaient les communications. Avec l'abolition historique des surtaxes longue distance le 31 décembre 2000, tous les coups de téléphone étaient devenus des appels locaux et la race humaine avait accueilli le nouveau millénaire en bavardant comme une gigantesque famille. Comme la plupart des familles, elles ne vivaient pas toujours en bonne entente, mais ces querelles ne menaçaient plus la planète entière. La seconde et dernière guerre nucléaire n'utilisa pas plus de bombes atomiques que la première, précisément 2. Et si le kilotonnage fut plus important, les pertes furent infiniment moindres, car toutes deux furent lancées contre des installations pétrolières très peu peuplées. À ce moment-là, les trois grands, les USA, l'URSS et la Chine, agirent avec une rapidité et une sagesse louables, fermant hermétiquement la zone de guerre jusqu'à ce que les combattants survivants aient retrouvé la raison. Durant les années 2020 à 2030, une guerre entre les grandes puissances était aussi inconcevable que 100 ans plus tôt entre les États-Unis et le Canada. Ce n'était pas dû à une amélioration de la nature humaine, ni à aucun autre facteur que la prédominance de l'instinct de vie sur l'instinct de mort. Une grande partie du mécanisme de la paix n'était même pas consciemment organisée. Quand les hommes politiques se penchèrent sur ce problème, ils se rendirent compte alors que tout était en place et fonctionnait bien. Aucun homme d'État, aucun militant d'aucune confession n'avait eu l'idée du mouvement « Otage de paix ». Le nom fut même imaginé bien après que l'on eut remarqué qu'à n'importe quel moment, il y avait toujours 100 000 touristes russes aux États-Unis et un demi-million d'Américains en Union soviétique, se livrant pour la plupart à leur passe-temps favori, se plaindre de l'intendance. Et surtout que ces deux groupes contenaient un nombre non négligeable d'individus de quelque importance, représentant de la fortune, des privilèges ou du pouvoir politique. Il n'était de toute façon déjà plus possible, même si on l'avait voulu, de préparer une guerre sur une grande échelle. L'âge de la transparence était né dans les années 1990, quand des médias entreprenants s'étaient mis à lancer des satellites photographiques sur les mêmes orbites que les militaires utilisaient depuis 30 ans. Le Pentagone et le Kremlin étaient furieux, mais ils n'étaient pas de taille à résister à Reuters, à l'Associated Press et aux caméras de l'Orbital News Service qui ne dormait jamais et fonctionnait 24 heures sur 24. En 2060, même si le monde n'avait pas totalement désarmé, il était pacifié et les 50 armes nucléaires conservées étaient toutes sous contrôle international. L'élection d'un monarque populaire, Édouard VIII, en tant que premier président planétaire, n'avait pratiquement pas soulevé d'opposition. Une douzaine d'États à peine étaient entrés en dissidence. Par ordre de superficie et d'importance, ils allaient de la Suisse, obstinément neutre, dont les restaurants et les hôtels accueillaient néanmoins à bras ouverts les nouveaux fonctionnaires, aux Malouines, toujours aussi farouchement indépendantes, qui résistaient à toutes les tentatives des Britanniques et des Argentins, exaspérés de se les rejeter les uns aux autres. Le démantèlement de la vaste industrie entièrement parasitaire de l'armement avait donné à l'économie mondiale un essor sans précédent. Peut-être pas toujours parfaitement sain, mais les matières premières vitales et les cerveaux de l'ingénierie n'étaient plus voués à la destruction. Ils pouvaient être utilisés, au contraire, à réparer les ravages et à rattraper la négligence des siècles, à reconstruire le monde. Et à en construire de nouveaux. L'humanité découvrait l'équivalent moral de la guerre, un défi capable d'absorber le surplus énergétique de la race, pour autant de millénaires dans l'avenir que l'on oserait rêver.